Chers amis, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre de l'Exode. Tout d'abord, Exode, chapitre 13, nous lisons les versets 17 à 22. Exode 13, versets 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Succoth. Et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, nous relisons trois versets déjà parcourus hier soir, les versets 14 à 16, 1 Samuel 16, versets 14 à 16. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Chapitre 18, un troisième texte, les quatre premiers versets, 1 Samuel 18, versets 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il aimait David comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Un verset du deuxième livre de Samuel, chapitre 1er, simplement un verset, mais qui est important. 2 Samuel 1, verset 26. 2 Samuel 1, 26. L'oraison funèbre prononcée par David sur Saül et ses fils. Et au verset 26, « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. » Et puis enfin, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 10, Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 10. Les questions de la personne de Jésus-Christ, C'est lui qui, dans les jours de sa chair, quand il était dans un corps humain, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Vous devez vous demander quels liens peuvent bien exister entre ces différents passages. Notre réflexion de ce soir va essayer de jeter un pont entre ce que nous avons partagé hier soir avec ceux et celles d'entre vous qui étiez présents et le culte, le message du culte de demain matin. Nous allons préparer ce que nous affirmerons, Bible en main, demain matin sur ce thème de la formation de l'homme spirituel. Nous nous entretenons donc de ce que j'ai appelé hier soir la guerre des deux trônes. Cette lutte terrible, implacable, du premier roi d'Israël, Saül, contre David, loin de l'Éternel pour lui succéder. 10 années entre environ 20 et 30 ans, racontées très largement dans 1 Samuel 16 à 30, 10 années marquées par, en tout cas, au moins, une dizaine de tentatives d'assassinat de Saül sur la personne du jeune David. Période très difficile. Pour David, nous pouvons l'imaginer, jusqu'à l'âge de 30 ans. Pendant 10 ans, la lutte du roi selon la chair, avons-nous dit, selon le cœur des hommes, du roi déchu, contre le roi, selon le cœur, selon la pensée même de Dieu. Et nous nous sommes posés hier soir cette question, mais qui se cache derrière Saül? Et là où, je dirais presque instinctivement, nous sommes poussés à immédiatement à affirmer que, bien entendu, ce ne peut être que le diable qui se cache derrière ce personnage qui nous apparaît de plus en plus odieux dans son attitude, dans son comportement. Nous avons dit que il fallait peut-être résister à cette envie de simplement coller l'étiquette diabolique sur le dos de Saül. Et nous avons simplement affirmé que, en réalité, derrière Saül se cache peut-être le diable, mais derrière la puissance des ténèbres se cache la personne de Dieu. Dieu est à l'origine première de cette situation si difficile que vit son serviteur, son oint, celui qui va annoncer d'une manière toute particulière la personne et le ministère de Jésus-Christ. Dieu, avons-nous dit, se sert de Saül le charnel pour combattre le Saül tapis au fond du cœur de David. Et bien sûr, il fallait étayer une telle affirmation, parce qu'elle peut être troublante. Et il était facile de l'étayer, puisque nous avons, à 6 reprises, dans les chapitres 16 à 19, cette expression, au départ quelque peu obscure, choquante, que nous avons lue à trois reprises tout à l'heure, dans 1 Samuel 16, verset 14, « Saül fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » De l'Éternel. Et j'ai reçu depuis hier soir deux nouveaux témoignages qui s'ajoutent à une longue liste d'amis qui, depuis hier soir, ont enfin saisi le sens de ce texte et qui se posaient la question, effectivement, depuis longtemps. Il est tout simplement ici question de la souveraineté de Dieu sur la puissance des ténèbres. L'ennemi ne fait pas ce qu'il veut. Et non seulement il ne fait pas ce qu'il veut, mais Dieu l'utilise pour accomplir, tenons-nous bien, ses desseins d'amour à l'égard de ses enfants. Et nous allons d'ailleurs continuer dans ce sens ce soir, pour que le Saint-Esprit puisse vraiment graver ce message qui nous gêne aux entournures. Nous avons de la peine à accepter que Dieu puisse placer sur notre route de ces Saül, de ces circonstances qui, c'est vrai, nous apparaissent parfois tellement incompréhensibles, tellement énigmatiques, tellement odieuses. Comment pouvoir accrocher la personne de Dieu, une étiquette, n'est-ce pas, mentionnant Dieu derrière ces circonstances qui sont parfois si troublantes dans chacune de nos vies. Mais nous avons vu un certain nombre d'exemples dans l'Ancien Testament déjà de la manière dont Dieu utilise la puissance des ténèbres qui lui est soumise pour accomplir ses desseins envers et contre tout. Et la manière dont il la contrôle. Si nous avions passé beaucoup plus de temps ensemble dans ce séminaire, nous aurions alors épluché chapitre après chapitre pour essayer de mieux en saisir toute la substance pour nos vies. Mais nous devons emprunter, bien à regret, mais il faut être réaliste, certains raccourcis pour nous arrêter à l'essentiel. Nous avons actualisé dans notre conclusion en disant que Dieu s'est donc servi d'un lunatique lié par un esprit malin, impulsif, terriblement versatile, rongé d'orgueil, un mélancolique, coléreux, qui présente manifestement les symptômes d'une psychose maniaque dépressive, mais lié à la présence vraiment agissante de la puissance des ténèbres dans sa vie, ce qui n'est pas toujours le cas, et de loin, dans toutes ces psychoses. Nous devons ici être très prudents et ne pas abonder dans le sens de ceux qui voient le diable derrière toute manifestation désordonnée dans le domaine cérébral chez l'homme. De même que nous ne devons pas abonder, nous l'avons dit aussi hier soir, dans le sens de ceux qui se refusent à croire que la puissance des ténèbres puisse être derrière ces manifestations. Vous savez combien l'équilibre dans la vie de disciples de Jésus-Christ est chose difficile. J'ai souvent évoqué Martin Luther, qui avait des problèmes comme chaque disciple de Christ, et qui disait que l'homme est un cavalier ivre. Monté en selle, son ivresse le fait tomber d'un côté, remonté en selle, son ivresse le fait tomber de l'autre. Et en permanence, nous avons besoin de nous recentrer sur la base de l'ensemble des Écritures. Et je ne sais si vous avez remarqué que nous avons le souci, durant ces soirées, de, je dirais presque, arroser les Écritures, non pas simplement en nous cantonnant dans l'histoire de David elle-même,
mais en allant voir ailleurs dans les Écritures, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, pour voir les similitudes, l'unité de pensée de Dieu au travers de l'ensemble des Écritures, pour éviter précisément de verser dans des extrêmes. Dieu s'est donc servi de ce personnage pour former le plus grand roi d'Israël et développer en lui, à la mesure des lumières reçues de l'époque à laquelle il vivait, pratiquement 1000 ans avant Jésus-Christ, de développer en lui le caractère du fils de David. Dieu se sert donc, nous l'avons dit, d'un patron au sale caractère, d'un voisin de chambre impossible, d'un camarade du club de jeunes que l'on aimerait mieux voir fréquenter un autre club. Ça arrive partout, n'est-ce pas? Il se sert d'un croyant rétrograde et charnel, de frères et sœurs difficiles à vivre, et de tant d'autres choses qui nous restent en travers du gosier, pour nous former, pour développer en nous l'homme spirituel, pour traiter ce que la maréchale Beauce appelait, je le disais hier soir, l'hippopotame moi, pour nous faire perdre nos illusions, notre confiance en nous-mêmes. Nous avons besoin de frères marteaux et de sœurs clous pour nous crucifier, puisque nous sommes dans l'incapacité évidente de nous crucifier nous-mêmes. Il y a dans les Écritures d'autres exemples qui vont dans le même sens. Je pense à Jacob. Jacob, le trompeur, le supplanteur, docteur S. débrouille, très fort en mathématiques dans le domaine du calcul, un calculateur fini. Un homme, certes, assoiffé de la bénédiction de Dieu et prêt à utiliser tous les moyens pour être béni de Dieu. Parce que, s'appuyant sur un verset qui n'est pas dans les Écritures et qui dit ceci, « La fin justifie les moyens lorsque cette fin est spirituelle. » Ce n'est pas le verset du monde, ça. Ça, c'est ce que j'appelle un verset qui est dans les apocryphes des Écritures, c'est-à-dire qui concerne le peuple de Dieu. Dans le monde, c'est la fin justifie les moyens tout court. Nous, nous sommes un peu plus subtils. Nous disons que la fin justifie les moyens quand la fin est spirituelle. Si nous avons des motivations spirituelles, si nous visons la gloire de Dieu, si nous désirons vraiment être bénis de Dieu, si nous sommes des assoiffés de Dieu, alors, eh bien, on peut bien prendre quelques détours, utiliser quelques trucs, comme beaucoup de nos prédécesseurs dans l'histoire de l'Église, mais aussi dans les Écritures, l'ont fait. Vous savez que souvent, c'est l'aiguillon des promesses de Dieu qui nous amène à l'impatience et qui nous fait utiliser le système D. Système D comme d'équerre. Prenez Abraham et Sarah. Alors ici, nous avons Jacob. Comment Dieu s'y est-il pris pour régler le problème de l'hippopotame moi qui régnait en maître dans le cœur de Jacob et qui se traduisait par cet esprit rusé, calculateur, trompeur? Eh bien, ça a été très simple. Dieu lui a donné comme patron un homme qui n'avait pas un doctorat dans ce domaine, mais au moins deux, sinon trois, peut-être quatre. Laban, son oncle, plus fourbe, plus rusé, plus trompeur, plus calculateur que lui. Et pendant 20 ans, Jacob s'est promené du matin au soir et parfois du soir au matin un miroir à la main. Oh, il n'avait pas besoin d'aller fouiller dans sa poche pour le chercher, il l'avait en face de lui. Quand il regardait Laban, il voyait Jacob en Laban. Et une petite voix murmurait à son cœur, « Hé, Jacob, t'as vu comme tu es ? » Souviens-toi. Souviens-toi de la peine que tu as fait à ton frère, Ésaü. Souviens-toi de la peine de ton père que tu as trompé. Souviens-toi, peut-être quand même, bien qu'elle ait été une des causes du désarroi de ta mère, qui te chérissait, qui avait fait de toi son chouchou, son petit préféré, parce que tu aimais bien vivre dans ses robes et préparer la soupe avec elle. Un jour, il n'y a pas si longtemps, avec larmes, elle t'a dit au revoir. Oh, en ayant, selon elle, la certitude qu'elle te reverrait. Ce qui n'a pas été le cas. Alors maintenant, tu souffres pour que tu puisses enfin saisir l'acuité des souffrances subies par ceux que tu as fait souffrir. Et il vaut la peine de relire tous ces chapitres dans lesquels on voit comment Dieu utilise Laban pour combattre le Laban qui est caché dans le cœur de Jacob. À commencer par cette odieuse tromperie au niveau du mariage, n'est-ce pas? C'était quelque chose d'infiniment cruel. Voilà un homme qui travaille de tout son cœur et puis il espère. Et il aime tellement Rachel aux yeux doux, n'est-ce pas? Et puis quand il est prêt de pouvoir embrasser sa biche et... Hein, vous comprenez? Voilà qu'il découvre que c'est l'autre. Que ça a dû être difficile. Ce n'était pas le diable qui se cachait derrière Laban. C'était Dieu. C'était Dieu. Et il a fallu le guet de Jabok. Ce moment terriblement difficile, cette confrontation suprême, au point de rupture dans la vie de Jacob. Quand il est dans l'impasse la plus absolue, qu'il se rend compte que ces trucs ne servent plus à rien. Alors, dans la nuit du guet de Jabok, Dieu le rencontre. Et Dieu le frappe. Dieu le blesse pour que la marche de cet homme change. Pour qu'il cesse de courir comme un cabri absolument n'importe comment, qu'il apprenne à marcher au rythme des petits-enfants et des agneaux faibles du troupeau. Et nous assistons à ce combat pathétique, bouleversant, dans lequel Jacob enfin reconnaît le programme contenu dans son nom. Quel est ton nom, Jacob? Jacob, je le reconnais, je suis le supplanteur, je suis le tricheur, je suis le menteur. Et alors que le soleil se levait sur Péniel, Dieu le bénit. Et un nouvel homme était en train de naître. Mais il a fallu 20 ans. Et Dieu peut-être veut nous interpeller ce soir. Il y a peut-être, je n'en sais rien, Dieu le sait, un quelconque Laban qui se promène sur notre chemin. Parce que tout en nous réclamant de Jésus-Christ, nous continuons à tricher. Nous ne sommes pas conséquents dans notre témoignage. Nous avons un jour donné notre vie à Jésus-Christ et puis, eh bien, on vit en bricolant ici et là. On se réclame de lui, mais il n'est pas le souverain. Alors Dieu met sur notre route un jour de ces personnages semblables à Saül, semblables à Laban, qui sont les véritables miroirs de notre péché. Et alors, le Saint-Esprit commence à travailler en profondeur et à faire sauter cette carapace d'orgueil de ce moi qui n'est pas encore passé, qui n'a pas encore expérimenté la croix, qui a été certes cloué de manière juridique à la croix, nous l'avons dit hier soir, mais qui ne veut pas expérimenter la croix dans la vie quotidienne. Et cela fait mal. Et mes bien-aimés, j'aimerais le dire ce soir, pour qui veut avancer avec Jésus-Christ, inévitablement, tôt ou tard, il y a un gué de Jabbok à franchir dans chacune de nos vies. Là où nous ne voyons que Satan, que des situations difficiles à fuir coûte que coûte, n'y aurait-il pas la main de Dieu à l'œuvre ? Je ne dis pas que nous devions rechercher par une sorte d'héroïsme spirituel mal placé que personnellement j'assimilerais plutôt à une sorte de masochisme, un certain plaisir dans la souffrance qui nous permet de nous inscrire dans les héros, à nos yeux, de la foi. Pas du tout. David n'a absolument pas cherché les problèmes avec Saül. Laissons Dieu organiser les choses. Nous avons déjà assez de problèmes comme ça, n'est-ce pas ? Donc ne cherchons pas, Dieu organise nos circonstances. Nous sommes appelés, invités à fuir le péché. Mais non pas à vouloir fuir systématiquement les circonstances difficiles, les personnes difficiles. Nous devons nous poser la question, mais Seigneur, pourquoi places-tu ces personnes sur mon chemin ? Dieu ne nous donnera pas forcément la réponse tout de suite, il se peut même que nous ne recevions jamais de réponse. Mais ce qui est certain, c'est que pendant tout le temps de notre cheminement aux côtés de ces personnes difficiles, Dieu va pouvoir travailler dans nos vies. Or, notre préoccupation, c'est généralement que Dieu travaille dans la vie de l'autre, de celui qui pose des problèmes. Là où Dieu voudrait nous dire par son esprit, mais ne te préoccupe donc pas de l'autre. Ce qui devrait t'importer, c'est que je puisse travailler dans ta vie. Le reste m'appartient. Saül m'appartient. Ce qui compte, c'est toi, David, et l'avenir que je te réserve, l'efficacité que je voudrais que tu puisses avoir dans ta marche avec moi, dans ton témoignage pour moi, dans ta croissance, en devenant mûr, homme spirituel, fécond, dans ta marche avec moi. Je pense à Joseph. Joseph est ce juste regard de cet homme de Dieu sur 12 années environ des plus pénibles de sa vie, de 18 à 30 ans. C'est intéressant de voir là aussi, voyez les similitudes, 18 à 30 ans, des années absolument cruciales, que Joseph a vécu de quelle manière, lui qui était le chouchou, le spécial dans la famille. Il les a vécues dans des circonstances épouvantables, rejeté de ses frères, esclave, calomnié, emprisonné, oublié au fond de sa prison. Jusqu'au jour où il s'est retrouvé bras droit de Pharaon. 12 années difficiles. Que dit-il ? C'est intéressant, alors qu'il est âgé de 38-39 ans, 20 années après avoir reçu ses promesses qui ont fait grincer des dents toute sa famille, à commencer par ses frères, dans Genèse 45, versets 4 à 9, Genèse 45, versets 4 à 9, dans ce moment auquel j'aurais tant voulu assister, où Joseph est reconnu par ses frères, chapitre 45, versets 4 à 9, Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi !» Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que
Dieu m'a envoyé devant vous.
Mais vous vous rendez compte? C'est tellement facile de lire la Bible en TGV, hein? Pouh, l'histoire de Joseph, ça file! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est beaucoup plus difficile de s'incarner dans le personnage, de se mettre dans sa peau, et de se dire, mais comment est-ce que j'aurais réagi en face de ceux qui tout d'abord m'ont condamné à mort, en m'envoyant au fond d'une citerne et en me laissant hurler de peur, parce qu'il a crié son angoisse, il le dira, Joseph. Il savait qu'ils étaient là, tout près, il les entendait discuter, il les suppliait de sortir de là, il ne bougeait pas. Vous savez, il y a des blessures qui restent dans une vie. C'était ses frères. Et puis après, mais de le vendre comme un vulgaire, mais le plus bas des esclaves pour une petite somme, là. Et puis comme si c'était insuffisant, une fois que ça va mieux, qu'il a le sentiment que Dieu lui sourit, juste là, à ce moment-là, quand il se dit « Ouf !» Quand même, une peau de banane qui s'appelle la femme de Potiphar. Et une calomnie, mais des plus dégoûtantes, des plus écœurantes qui soient pour un jeune homme qui avait soif de pureté. Il n'y a rien de plus terrible qu'une calomnie dans le domaine des mœurs. Lorsque vous avez le souci devant Dieu de vivre dans la pureté et qu'on vous couvre de boue dans le domaine de la sexualité. Puis il se retrouve en prison, puis une fois que ça va mieux, lorsque il met ces deux personnes, ces deux collègues là dans la prison, les chansons et le panetier, au bénéfice de sa relation avec Dieu, et qu'enfin il voit les chansons qui filent avec sa valise et qui lui donnent un message, n'est-ce pas? Il en fait le facteur, il dit, tu sais, tu vas discuter avec Pharaon, tu lui diras, hein, je suis ici, mais j'ai rien fait pour être là. Quand il commence à respirer, qu'il se met à compter les jours, n'est-ce pas? Il a dû faire des petits traits dans la prison, disant, ça y est, il a causé, bientôt je vais être délivré. Et puis le texte nous dit, les chansons l'oublia. 2 ans. 15 jours, 12 ans, à un âge où on est censé ne pas cultiver la patience de manière extraordinaire. 2 ans. Et voilà que, un peu plus tard, 20 ans après les promesses, 8 à 9 ans après avoir quitté la prison, il dit à ses frères, « Dieu m'a envoyé devant vous. » Verset 7, vous savez, c'est toujours la même chose. Quand dans les Écritures, vous avez une affirmation qui a du mal à passer tant elle apparaît grosse, Dieu s'est toujours arrangé pour la répéter plusieurs fois. Alors ici, verset 7, Dieu m'a envoyé devant vous. Verset 8, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, sous-entendu, parce que vous êtes dominé par la puissance des ténèbres. Mais c'est Dieu. Et puis, au verset 9, « Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi, Seigneur. » 4 fois. C'est Joseph. Il ne voit pas le diable partout. Ça ne veut pas dire qu'il est naïf au point de penser que le diable n'a pas essayé de le détruire. Il y a là toute la dimension de la tentation dont nous nous sommes entretenus hier soir. Derrière ces épreuves successives, le diable visait la destruction de Joseph parce qu'il était un type de Jésus-Christ. Mais Joseph a refusé de cadenasser son regard sur le diable. Il a voulu voir celui qui était derrière. Il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Et c'est le message qu'il a été capable de communiquer. Plus loin, dans la conclusion du livre de la Genèse, au chapitre 50, à partir du verset 15, Joseph est alors âgé d'environ 56 ans. Environ 40 ans se sont écoulés depuis les premières promesses. Lisons verset 16, 15. « Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir, vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Vous savez, c'était un homme, Joseph, qui avait appris à pleurer. Entre Genèse 42 et Genèse 50, il est question sept fois. Sept fois, c'est un symbole. C'est un symbole de plénitude dans les Écritures. Sept fois, il est dit que Joseph pleura. C'était un homme qui, au travers de la souffrance, était devenu sensible. Non pas de sensiblerie, mais de sensibilité. Il ne pleurait pas pour un rien, par hyper-émotivité, non. Mais il était devenu un homme au cœur malléable. La souffrance avait fait de son cœur un cœur malléable, sensible à la souffrance, à la détresse et aux besoins des autres. Alors il pleure. Et ensuite il ajoute, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. 40 ans plus tard. Vous savez, notre problème, c'est que nous n'avons pas la même conception du temps que notre Dieu. Et cela fait partie de la formation de l'homme spirituel, que d'entrer dans la pensée de Dieu au niveau du temps. Et nous sommes dans un temps où nous voulons que tout aille vite. Très vite. Trop vite. Nous aimons les raccourcis, nous allons le voir demain matin encore, d'une manière toute spéciale. Dieu travaille en vue de l'éternité. Et ce temps que nous passons sur la terre est une petite goutte dans l'océan de l'éternité. Et si Dieu a besoin de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans pour réaliser quelque chose, il prend le temps qu'il faut. Il m'est à plusieurs reprises arrivé de dire, je l'expliquais encore la semaine dernière dans un séminaire sur l'éducation des enfants, il m'est souvent arrivé de dire que Dieu a mis 25 à 30 ans pour guérir certaines blessures dans mon propre cœur, liées à mon enfance, à mon adolescence. Dieu a pris le temps. Là où nous bousculons, là où nous devenons précisément charnels, où nous voudrions devenir des hommes spirituels sans passer par l'enfance et l'adolescence, ce n'est pas possible. Et puis, prenons un exemple du Nouveau Testament, puisque jusqu'à présent, nous les avons pris dans l'Ancien. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10, je lirai peut-être dès le verset premier pour que nous ne rations pas le contexte immédiat. 2 Corinthiens 12, verset 1er. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Et nous avons ensuite l'exemple de la manière dont nous devons parler de ces moments tout à fait particuliers dans notre relation avec Dieu. Sobriété, humilité, précaution de peur de se tromper ou d'être mal compris. Je connais un homme en Christ, c'est de lui qu'il parle. Pourtant, il dit « Je connais un homme en Christ ». Il commence par préciser qu'il est d'abord centré sur Jésus-Christ et non pas sur les révélations et les visions dont il a été le bénéficiaire par la grâce de Dieu. Je suis d'abord un homme en Christ. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans. Il n'est pas du tout certain qu'il en ait parlé auparavant. C'est le seul texte qui en parle dans les Écritures. Ce qui sous-entend que Paul ne tournait pas autour de ses visions et révélations. Il y a 14 ans, il fut ravi jusqu'au troisième ciel, pas jusqu'au septième, ce n'est pas biblique. Hein? Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son cœur, je ne sais. Dieu le sait. Vous voyez qu'il se répète. Quelle précaution. Il fut enlevé dans le paradis, qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même. Je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Je n'essaie pas de me valoriser sur la base de mes expériences. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Dieu pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Il y a un problème ? Mon ami sourit. Quel est le problème ? Il y a un problème ? Moi, je croyais qu'il y avait un problème. Mais est-ce qu'il y a un problème ? Il me semble qu'il y a un dérapage comme hier soir. Hein, il y a un problème, évidemment. Un ange de Satan. Oui, un ange de Satan. Et ce n'est pas une erreur de copiste. Parce que cela entre dans le cadre de tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Paul sait que c'est un ange de Satan qui le soufflette, qui l'empêche de s'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Vous remarquez que Paul croit à la souveraineté de Dieu sur cet ange de Satan. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner, parce que je crois qu'il en a le pouvoir, parce que c'est lui qui le commande. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans mon nouveau livre, j'ai consacré deux chapitres à ce titre, la fidélité à l'école de la faiblesse. Il fallait qu'il connaisse la faiblesse. Et Dieu l'a fait passer par un chemin extrêmement difficile. Déjà sur le chemin de Damas, l'école de la faiblesse a commencé sur le chemin de Damas lorsqu'il s'est retrouvé par terre, dans la poussière, aveugle,
Et ensuite, prise en main comme un petit enfant, complètement dépendant, pour être amené jusqu'à Damas. Ça a commencé là, l'école de la faiblesse. Et ensuite, Dieu a envoyé des hommes qui se sont relayés les uns après les autres pour le maintenir dans la faiblesse. Ananias, et puis Barnabas, et puis cette communauté de Jérusalem qui l'a protégé, n'est-ce pas, enfin ses croyants, parce que ça aurait pu très mal se passer. Finalement, vous savez comment il a pu échapper à la mort. Dès le début, tous les premiers pas de sa vie ont été marqués de sa fragilité, complètement dépendant. Et puis il y a eu cette écharde qui a donné lieu à toutes sortes de commentaires, d'interprétations, nous ne sommes pas sûrs, mais il y avait écharde. Et cette écharde, c'était un ange de Satan qui l'a remué. Et derrière se trouvait la personne de Dieu. Dieu se sert, a dit quelqu'un, de Satan comme une ménagère d'un chiffon pour faire briller un beau meuble de noyer. Cette constatation biblique peut nous aider à développer un juste regard sur les épreuves particulièrement pénibles, révoltantes, que nous avons à connaître parfois. C'est pourquoi. Et je peux vous dire que je n'en parle pas gratuitement. Nous en reparlerons d'ailleurs demain. J'aimerais vous lire un passage avant d'aller plus loin. Mon enfant, j'ai un message pour toi, aujourd'hui. Laisse-moi le murmurer à l'oreille, pour qu'il puisse auréoler de gloire tout nuage de tempête venant à s'élever et aplanir les lieux rocailleux où tu devras peut-être marcher. Il est court. 5 mots seulement. Mais laisse-le s'enfoncer au tréfond de ton âme. Utilise-le comme un oreiller où reposer ta tête. Lasse. Cette chose vient de moi. As-tu déjà pensé à ceci? Tout ce qui te concerne me concerne aussi. Car celui qui te touche, touche la prunelle de mon œil. Tu as du prix à mes yeux. C'est pourquoi je prends un plaisir spécial à te former. Je voudrais que tu apprennes, quand les tentations t'assaillent et que l'ennemi vient comme un fleuve, que cette chose vient de moi. Que ta faiblesse a besoin de ma force et que ta sécurité consiste à me laisser combattre pour toi. Te trouves-tu dans des circonstances difficiles ? Entouré de gens qui ne te comprennent pas, qui ne s'enquièrent jamais de tes goûts, qui te mettent à l'arrière-plan. Cette chose vient de moi. Je suis le Dieu des circonstances. Tu n'es pas arrivé là par accident. C'est là même que Dieu voulait te voir. N'as-tu pas demandé à devenir humble ? Alors, vois, je t'ai placé à l'école où cette leçon est enseignée. Ton entourage et tes compagnons ne font qu'accomplir ma volonté. As-tu des problèmes d'argent? T'est-il difficile de joindre les deux bouts? Cette chose vient de moi, car je suis celui qui tient les cordons de ta bourse, et je voudrais te voir puiser en moi et dépendre de moi. Ma richesse est sans limite. Je voudrais que tu mettes à l'épreuve mes promesses, qu'il ne soit pas dit de toi: dans cette circonstance, tu n'as pas eu confiance en l'Éternel, ton Dieu. Traverses-tu une nuit de chagrin? Cette chose vient de moi. Je suis l'homme de douleur, habitué à la souffrance. J'ai permis que les réconforts terrestres te fassent défaut pour qu'en te tournant vers moi, tu puisses obtenir une consolation éternelle. Désires-tu accomplir une grande œuvre pour moi, au lieu de quoi tu t'es trouvé cloué sur un lit de souffrance et de faiblesse? Cette chose vient de moi. Je ne pouvais attirer ton attention quand tu étais tellement occupé. Et je veux t'apprendre quelques-unes de mes leçons les plus profondes. Ils me servent aussi ceux qui attendent patiemment. Certains de mes plus grands ouvriers sont ceux qui sont exclus du service actif pour apprendre à manier l'arme de la prière. En ce jour, je place dans ta main ce pot d'huile sainte. Fais-en librement usage, mon enfant, que toute circonstance survenant, tout mot qui te blesse, toute interruption qui te rendrait impatient, toute révélation de ta faiblesse en soi oint. La douleur passera à mesure que tu apprendras à me voir en toute chose. Nous avons lu tout à l'heure, vous l'avez remarqué, dans notre dernière lecture, un texte de l'Épître aux Hébreux. Dans Hébreux 5, nous allons reprendre ce texte d'Hébreux au chapitre 5 et nous allons quelque peu le développer. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10, il va nous permettre de préparer notre réflexion de demain matin. Il est un pont vers demain matin. Je relis ce texte, mais je vais le relire dans la transcription d'Alfred Kuhn. Au cours de sa vie sur terre, Christ a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. C'est ainsi qu'il atteignit le plus haut degré de la perfection. Et il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu lui-même le reconnaît comme tel, puisqu'il l'a salué par avance du titre de grand prêtre, comme Melchisédek. Je suis reconnaissant de pouvoir ce soir simplement terminer notre réflexion de cette soirée sur ce texte, pour souligner qu'il nous est dit ici quelque chose d'assez troublant. Le Christ a appris l'obéissance. Le Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il y a quelque chose qui, au premier abord, est choquant. Parce que lorsque nous disons que quelqu'un apprend l'obéissance, c'est parce qu'il est désobéissant. C'est parce qu'il est insoumis. Or, ici, il nous est dit de Jésus-Christ lui-même qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Qu'est-ce que ça signifie? Comment comprendre ce texte tellement énigmatique? Est-ce que Jésus-Christ devait apprendre, lui, le Fils de Dieu, dans ce domaine de l'obéissance, qui est un des signes de maturité de l'homme spirituel? Et je fais remarquer simplement ici au passage, sans m'y attarder, que le terme grec traduit par obéissance, signifie littéralement se mettre dessous lorsqu'on écoute. Se soumettre dans l'écoute. Alors que la désobéissance utilise le même verbe, mais avec une autre préposition, qui signifie au contraire se mettre à côté avec une dimension d'éloignement. Il y a ceux ce soir, que Dieu seul connaît, qui se mettent dessous. C'est-à-dire qui ce soir se soumettent à l'autorité de la parole de Dieu. Et cette soumission va se traduire en changement dans la mentalité, dans la conception, dans la manière de vivre et de faire, de réagir, de vivre les relations avec autrui, avec les circonstances. Et puis, je ne le souhaite pas, bien entendu, il y a ceux qui ce soir, peut-être, se placent à côté, dans le sens de la fuite. Ils refusent de se mettre dessous pour écouter. Ils écoutent, mais en fuyant. Réfléchissons à la personne de Jésus-Christ avant l'incarnation. Avant l'incarnation, dans le ciel de toute éternité, la Bible nous dit que Christ était un avec le Père. Il était égal au Père et volontairement soumis au Père, obéissant au Père. Dans ce mystère de cette équipe que constitue la Trinité, chacun avait sa place. Égalité parfaite, mais position différente. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, la Bible dit que dans l'éternité future, quand le problème du péché, de la mort, de la puissance des ténèbres aura été réglé, le Fils sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Dans l'éternité future, le Fils sera soumis. Volontairement, tout en restant l'égal du Père. En venant sur la terre, Christ est entré dans un tout nouveau champ d'expérience. Et là aussi, nous passons trop vite sur ces choses. C'est si vite fait de prononcer ce mot « incarnation ». Mais qu'est-ce que cela signifie? Il fallait que Christ soit soumis au Père sur la terre. Et ce n'était pas rien. Voilà que, d'un instant à l'autre, en quelque sorte, celui qui n'était limité en rien, entrer dans notre monde et accepter de s'enfermer dans un corps, dans une véritable prison, qui l'obligeait à être présent en un seul endroit à la fois. Donc, à circuler comme vous et moi d'un endroit à un autre, lui qui dans l'éternité passée pouvait tout englober d'un seul regard, dirions-nous, en langage humain. Et puis, il avait vécu en dehors du temps. Et voilà qu'il acceptait de s'enfermer dans cette prison du temps, avec tout ce que cela peut signifier. Combien nous avons de problèmes, n'est-ce pas, avec le temps? Croyez-vous que c'était plus évident pour le Seigneur Jésus, avec l'agenda qu'il avait, avec les gens qui se pressaient sur sa route, qui l'arrêtaient? Quel programme! Et il lui fallait dans cette situation être soumis. Et il y avait, et j'utilise là volontairement une image, il y avait devant lui, sur la terre, un grand escalier. Un immense escalier qui montait très haut, très haut, très haut. Et dès l'aube de son ministère, Jésus voyait clairement, là-haut, tout en haut, la croix hideuse qui se dressait et qui était pour lui tout spécialement. Chaque marche était une souffrance. Et chaque nouvelle marche était une nouvelle souffrance, un nouveau test d'obéissance, une nouvelle épreuve, une nouvelle tentation. Mais Jésus n'avait jamais rien connu de tout cela au ciel. Et Jésus savait aussi que chaque marche allait être plus douloureuse que la précédente. Chaque tentation allait être un peu plus insidieuse, perfide, de la part de la puissance des ténèbres, devant sa résistance, sa ténacité, sa constance, sa fermeté dans l'obéissance, dans la dépendance du Père. Et c'est vrai que dans une lecture attentive des évangiles, on se rend compte que plus la croix approche dans ce programme du salut de l'humanité par Jésus-Christ, plus l'ennemi se fait subtil ou impressionnant dans ses attaques contre le Seigneur. Il fallait donc que le Seigneur Jésus hisse son obéissance de degré en degré, dans des circonstances de plus en plus difficiles. Si vous voulez, il était un peu semblable, et c'est une toute petite image qui ne vaut que ce qu'elle vaut, à ces champions du saut en hauteur ou du saut à la perche, un Sergueï Bubka par exemple, n'est-ce pas, ce champion du monde du saut à la perche, qui systématiquement, chaque fois que la barre est placée un peu plus haut sur les taquets, passe victorieux du premier coup, sans même frôler la barre. De hauteur en hauteur, de centimètre en centimètre, voilà ce que Jésus a fait. Pour chacun d'entre nous, Christ a gravi chaque marche parfaitement. Chaque nouvelle épreuve s'est traduite par une nouvelle obéissance parfaite, une soumission complète, sans réserve au Père. Et Jésus-Christ s'est donc élevé progressivement de perfection en perfection dans l'obéissance, jusqu'à l'obéissance suprême, celle de la croix. À chaque degré, son obéissance était parfaite, mais se hissait immédiatement à un nouveau degré dans cette parfaite perfection. Christ était mûr à chaque étape, chaque nouveau test dans ce champ inconnu de la souffrance humaine a été passé avec succès, et c'est ainsi qu'il a pu connaître la maturité la plus pure et la plus élevée que l'on puisse connaître sur la terre. Lorsqu'il a prononcé dans sa mort sur la croix, au moment de mourir, « Tout est accompli ». Et voilà pourquoi il nous est dit, par exemple, dans le chapitre 2, au verset 17 et 18, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut
secourir ceux qui sont tentés. Et un peu plus haut, déjà au verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire, à la perfection, beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Et nous voudrions, nous, disciples de Jésus-Christ, passer par un autre chemin que celui-là pour grandir. Il nous a précédés. Lui, le parfait, dans cet apprentissage de l'obéissance parfaite, n'est-ce pas, à tous les degrés, pour que nous soyons, vous et moi, convaincus que c'est là aussi notre chemin. Il nous a ouvert un chemin pour que nous marchions sur ses traces. C'est dans le contrat de notre nouvelle naissance. Et il faut que nous soyons conséquents avec l'engagement pris à notre nouvelle naissance. Seigneur, tu as grandi de perfection en perfection, d'obéissance en obéissance, en étant parfait à chaque stade. Et maintenant, moi je dois aussi grandir, non pas de perfection en perfection, mais de la désobéissance vers l'obéissance et de l'obéissance vers une plus grande obéissance. Dieu poursuit un objectif de perfectionnement de l'obéissance au moyen de tests variés. Et il désire nous apprendre à être toujours plus dépendants de lui. Il n'y a pas d'autre chemin pour parvenir à cette stature d'homme spirituel. Si Jésus-Christ a dû passer par la souffrance pour vivre dans cette perfection la plus absolue, n'est-ce pas, en vue de notre salut, à combien plus forte raison nous qui sommes des pécheurs devons apprendre l'obéissance par le chemin de la souffrance. Alors nous verrons demain matin, à partir d'Exode 13, 17 à 22, que nous avons lu tout à l'heure, la substance de cet enseignement sur l'apprentissage de l'obéissance pour la formation de l'homme spirituel dans le peuple d'Israël, mais aussi dans nos vies. Et nous essayerons de le faire de manière équilibrée, en soulignant bien entendu qu'heureusement, il n'y a pas que la souffrance qui soit au programme de la formation de l'homme spirituel, puisque nous avons pris soin, vous l'avez remarqué tout à l'heure dans l'introduction, de signaler qu'au moment même où Saül se dressait comme instrument malgré lui de l'Éternel pour éduquer, pour former en David l'homme spirituel, au même moment Dieu plaçait sur le chemin de son serviteur un merveilleux ami, Jonathan. L'amour de Jonathan était plus fort que la haine de Saül. Alors nous en tirerons demain matin dans notre enseignement un certain nombre de conclusions. Nous voulons prier simplement. Seigneur, merci de bien vouloir nous faire pénétrer ensemble et individuellement dans
ta pensée, dans ta mentalité, dans ta conception de la croissance, de la maturation. Seigneur, nous réalisons ce soir une fois de plus que tes pensées ne sont pas nos pensées, que nous ne tenons pas les mêmes raisonnements que toi, et que souvent nous nous achoppons parce que nous avons si facilement d'autres conceptions de l'éducation que tu devrais nous donner. Nous serions-nous tentés de faire autrement? Mais nous te bénissons de nous avoir laissé dans cet héritage merveilleux qu'est ta parole, ces exemples de David, de Joseph, de Jacob, de l'apôtre Paul et de tant d'autres hommes que tu as pu utiliser, qui sont devenus malléables entre tes mains, dans des circonstances souvent, si souvent tellement difficiles, parce qu'ils ont accepté de se laisser former à ton école. Et puis nous te bénissons ce soir pour l'exemple suprême, pour cette soumission, cet abaissement volontaire de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui a effectivement, dans sa perfection, appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Afin que je puisse être sauvé, afin que nous puissions être sauvés, pour être l'auteur de notre salut, Seigneur, il n'y avait qu'un seul chemin emprunté, c'était celui-là, il l'a fait. Seigneur, nous voulons à notre tour être en bénédiction pour ceux qui nous entourent, ceux qui sont en dehors de toi, et puis aussi tes enfants. Seigneur, donne-nous d'accepter aussi, d'emprunter les voies que tu choisis pour nous, même si ces voies peuvent signifier parfois des souffrances insondables, incompréhensibles, des situations énigmatiques. Merci, l'essentiel est de savoir que même dans nos larmes, tu travailles dans nos vies. Tu développes le caractère de ton Fils et tu nous prépares pour le ciel. Nous te bénissons, Seigneur. Scelle ces paroles par ton esprit dans nos cœurs. Rappelle-les-nous dans les situations difficiles auxquelles nous serons encore confrontés. Et puis dans ta grâce, prépare-nous pour cette matinée de culte demain matin. Dispose nos cœurs, bénis tous les amis qui vont se joindre à nous, et que nous ayons aussi de la joie demain matin dans ta présence, en face de ta parole. Nous voulons ce soir t'adorer, te bénir, te remercier d'avoir bien voulu nous rencontrer en ton Fils Jésus-Christ, au moyen de ta parole.